La semaine passée, nous avons vu avec le pasteur Richard deux miracles. C'est toujours dans le cadre de notre étude dans l'évangile de Luc. Et nous savons que Jésus-Christ, maintenant, il est en route vers Jérusalem. Tranquillement, il s'approche de Jérusalem, là où il va donner son sang, exactement, comme nous l'avons signifié tantôt. Pour mon péché, pour ton péché. Et chemin faisant, il enseigne tout le long de la route, nous le voyons enseigner. Et l'enseignement de la semaine passée nous parlait de deux miracles. Un miracle physique qui a été accompli sur un aveugle. À Jéricho, ce monsieur-là n'avait jamais entendu, en fait, il n'a jamais vu Dieu, en fait, Jésus-Christ. Mais il en a vraiment déjà entendu parler. Il avait entendu parler de Jésus-Christ, mais à cause sûrement de sa vue, il n'a pas pu le rencontrer, il n'a pas pu le voir. Et nous voyons Jésus-Christ qui lui donne cette opportunité de voir encore. Et cette guérison, Jésus-Christ l'a bien signalé, c'est à cause de la foi de cet aveugle. Et Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à une guérison physique, il lui a offert le salut, comme nous l'avons dit. La mission de Jésus-Christ sur terre, c'est vraiment pour apporter le salut à toute la race humaine. Et c'est ce qu'il fait en s'en allant à Jérusalem, il annonce, il enseigne. Il y avait un deuxième miracle qu'il a accompli, mais cette fois-ci, ce n'était pas un miracle physique, c'était un miracle spirituel. Et ce miracle-là a été opéré sur un homme qui était considéré par ses pères, par sa communauté juive, comme étant l'un des plus grands pécheurs, l'un des pires pécheurs, pire espèce de pécheurs, parce que nous l'avons vu dans le texte, qu'il était le chef des détestables, le chef des traîtres. Il était collecteur d'impôts pour l'ennemi, pour l'occupant. Et lui aussi, il n'avait pas rencontré Jésus-Christ auparavant, mais il avait déjà entendu parler de Jésus-Christ. Et dans les deux cas, nous voyons deux hommes qui n'ayant pas vu Jésus-Christ, qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ, mais qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Et leur confiance était la base pour leur salut. Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à une guérison physique dans le cas de l'aveugle. Il lui a offert le salut. Et dans le cas de Zachée, il lui a dit que le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Alors, nous avons vu la semaine passée, il y avait des foules qui entouraient Jésus-Christ et aussi des disciples. Cette guérison, ces deux guérisons et puis les déclarations de Jésus-Christ par rapport au salut, semble-t-il, n'étaient pas aimées de son auditoire, les gens qui l'accompagnaient. Et nous pouvons en être sûrs parce que le texte qui est devant nous ce matin nous parle d'une certaine croyance qui sévissait parmi eux. Et c'est le texte que nous allons regarder ce matin dans Luc chapitre 19, versets 11 à 28. Je vous invite à tourner avec moi dans Luc, les versets 11 à 28. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vient et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vient et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin que qu'à mon retour, je retirasse avec un intérêt ?» Puis, il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent ensuite, « Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici les ennemis, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » Après avoir parlé ainsi, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. D'après les textes bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, le thème du royaume de Dieu, ce n'est pas un thème inconnu. Et c'était un thème qui, paraît-il, était présent dans beaucoup de conversations à l'époque. Et c'était quelque chose qui n'était pas nouveau pour la foule et non plus pour les disciples. Car déjà dans le verset 11 que nous avons lu tantôt, il est dit clairement que c'était une croyance. Le texte nous dit, on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Alors les gens croyaient à l'apparition du royaume de Dieu de façon miraculeuse et instantanée. Alors, si on lit ce texte-là, on pourrait se demander pourquoi est-ce que les gens avaient cette compréhension, cette pensée que le royaume de Dieu arriverait de façon instantanée. Mais le texte ne nous le dit pas, mais on peut quand même analyser à la lumière de ce que nous connaissons de la Bible, pourquoi peut-être qu'ils ont pu penser comme ça. N'oubliez pas qu'on est à l'approche de Pâques, n'est-ce pas? Et l'histoire du peuple juif nous parle d'un salut, d'une délivrance du peuple Israël même de la main de la servitude en Égypte. Et la Pâque qu'ils allaient célébrer dans quelques semaines leur rappelait exactement cette délivrance de l'esclavage. Et peut-être c'est à cause de cette raison-là qu'ils pensaient peut-être qu'il y aurait une délivrance instantanée comme ça. Et à cela, on pourrait ajouter les multiples miracles que Jésus-Christ avait accomplis parmi eux. Et à ces miracles-là, ces gens-là identifiaient automatiquement Jésus-Christ comme étant celui qui allait venir. Peut-être pas tous qui le voyaient comme étant le prophète promis, mais quand même une bonne partie de ce groupe-là qui le suivait. Et peut-être des gens aux environs de Jérusalem croyaient que Jésus-Christ était le Messie attendu. Ceci était vrai pour la foule, et je vous invite à tourner avec moi dans un texte qui nous parle de cela. Dans Jean chapitre 6, tournez juste après, dans le texte de Jean chapitre 6, versets 14 et 15. Alors c'est les gens qui nous rapportent ce fait-là, il dit, alors c'est dans le contexte de la multiplication des pains, Jésus-Christ venait de faire un miracle, tout le monde était étonné de voir cela. Et le verset 14 nous dit, ces gens-là, ayant vu le miracle que Jésus a fait, disaient, celui-ci est vraiment un prophète, le prophète qui doit venir dans le monde. Fait que le miracle que Jésus-Christ accomplissait faisait comprendre au peuple qu'il est peut-être le Messie. Pour certains, il était le Messie. Il y avait des gens qui n'y croyaient pas, mais pour certains de la foule, Jésus-Christ était le Messie, le prophète qui devait venir dans le monde. Et Jésus-Christ ne s'y prêtait pas parce que Jésus-Christ, sachant qu'il savait qu'il allait lui faire devenir un roi, il se retira tout seul dans les montagnes. Fait que le peuple ayant vu tous ces miracles-là, voyaient en Jésus-Christ le Messie et ils s'apprêtaient à le couronner roi. Mais ce que le peuple n'avait pas compris dans le message de l'Ancien Testament, c'est que Jésus-Christ est naturellement roi. Son origine est roi. Il n'a pas besoin de quiconque pour faire de lui un roi. Le peuple pensait que ça prenait leur participation pour que Jésus-Christ devienne un roi. Et ça, c'est clair. Jésus-Christ, son heure n'était pas venue. Il s'est retiré. Ça, c'était la compréhension de la foule, on peut dire. Mais malheureusement, même les disciples, semble-t-il, avaient cette même compréhension. Et Jésus-Christ prend le temps de corriger cette mauvaise compréhension qu'ils ont sur le royaume et sur sa personne. Et je vous invite à tourner avec moi dans Actes, chapitre 1, verset 6, où Jésus-Christ reprend les disciples par rapport à cela. Actes, chapitre 1, verset 6. « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Fait que c'est clair pour les disciples, le concept de l'établissement, le rétablissement du royaume d'Israël, c'est clair pour eux. Et ils voyaient que c'est Jésus-Christ lui-même qui allait rétablir ce royaume. Oui, Jésus-Christ va rétablir ce royaume. Oui, mais ce n'est pas dans le calendrier humain, ce n'est pas selon le calendrier humain. Et Jésus-Christ leur répond et corrige leur pensée. Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Alors, le royaume de Dieu va être établi, mais ce ne sera pas suivant un calendrier humain. Les humains n'auront pas à porter le quote-part dans ce royaume-là pour établir le Fils de Dieu comme étant le roi. Alors, cette correction-là était nécessaire aussi dans le cas de cette foule-là que nous avons vue dans Luc chapitre 10, dans chapitre 11. Que nous venons de comprendre que c'était dans la popularité, dans la compréhension populaire, et les gens pensaient qu'il allait avoir un royaume de Dieu établi d'un coup sec, par miracle peut-être. Ils pensaient qu'ils allaient avoir quelque chose à faire dans l'établissement de Jésus-Christ, pas forcément de Jésus-Christ dans leur tête, mais d'un roi. Mais Jésus-Christ veut corriger ça parce que le texte nous dit qu'il croyait que ça allait arriver tout de suite. Jésus-Christ a toujours enseigné et c'est ce qu'il fait, comme nous avons dit tantôt, et cette parole qu'il nous a laissée, c'est pour notre enseignement. On pourrait se demander, est-ce que les peuples, la foule et les disciples dans ce temps-là avaient compris cet enseignement? Mais n'oubliez pas que cet enseignement-là, c'est pour les gens de l'époque et aussi un enseignement pour nous qui allions arriver un peu plus tard. Et Jésus-Christ prit le temps de faire cet enseignement et cette fois-ci, il va le faire par l'intermédiaire d'une parabole. Et le fait que Jésus-Christ ait utilisé une parabole, ça témoigne aussi qu'il est celui qui est entendu, parce que les textes de l'Ancien Testament nous avaient prédit que Jésus-Christ, celui qui va venir, parlerait en parabole. Peut-être que les gens de l'époque avaient compris cela aussi, parce que Jésus-Christ parlait souvent et peut-être en parabole, et c'est peut-être un indice pour eux qu'il était vraiment le Messie attendu. Mais cette fausse compréhension du rétablissement du royaume de Dieu méritait une certaine correction, et Jésus-Christ prend la peine de corriger cette compréhension. Il prend l'exemple d'une mine et il dit qu'il y a un homme de haute naissance et qui s'est rendu dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Alors il appela ses 10 serviteurs et puis il donna des 10 mines, une mine à chacun de ses serviteurs. Et à la fin, ses concitoyens qui voulaient qu'il n'aimait pas, ben, ils lui ont envoyé un ambassadeur pour lui dire carrément que nous ne voulons pas que vous régniez sur nous. Mais le fait que ses concitoyens aient fait cette déclaration, ça n'empêchait pas qu'il soit vraiment rendu, qu'il soit déclaré roi, qu'il soit couronné roi, parce que il était un homme de haute naissance. Et je comprends dans ce texte-là que être de haute naissance dans ce contexte-là pourrait dire qu'il avait déjà la royauté, faisait partie de la royauté et qu'il n'avait pas besoin d'une intervention quelconque pour devenir roi. Mais je pense que dans mon humble avis, je pense que dans ce contexte-là, les gens qui devraient le couronner roi ont une opportunité. Je dirais une opportunité, une occasion qu'il lui a donnée de participer à son investiture. Il était déjà roi, mais il n'avait pas besoin de leur suffrage pour devenir un roi. Mais il leur donnait une opportunité de signaler leur consentement à ce qu'ils deviennent rois. Et quand Jésus-Christ continue dans sa parabole, et puis il parle du retour, quand le temps est fini, le roi est investi, maintenant il prend les rênes de son pouvoir. Et c'est là qu'il appelle ses serviteurs et il leur demande de rendre compte. Et le texte nous dit que celui qui avait une mine a rapporté 10 mines. Et celui qui en avait 3 en a rapporté. Celui qui avait 5, 1, l'autre, non, c'est ça. Puisque chaque serviteur avait une mine, et celui, le deuxième qui est venu, il a fait son mine ou sa mine à rapporter 5 autres. Mais il arrive le cas d'une troisième. Celui qui avait aussi une mine. Est-ce qu'on dit une mine ou une mine? Qu'est-ce que vous dites? Une mine, merci. Alors, lui, il dit, mais Seigneur, hein, je savais que tu es un homme sévère et que tu ramasses là où tu n'es pas semé, etc. Il dit, mais j'ai caché ta mine. Et comme ça, on n'a pas pu rapporter quoi que ce soit. Et nous voyons la réponse du Seigneur pour lui dire, qui lui dit, mais tu es un méchant serviteur, tu aurais pu déposer cet argent-là à la banque. Et à mon retour, j'aurais pu en retirer un intérêt. Et puis nous avons vu la suite, qu'est-ce que Dieu lui dit comme châtiment, que au lieu que tu aies la direction d'une ville, on t'enlèvera même cette mine que tu as. On va le donner à celui qui a 10 mines. Quand on regarde cette parabole, on peut faire pour beaucoup d'idées. Et pour interpréter ce texte-là, savoir comment, qu'est-ce que Jésus-Christ voudrait enseigner par l'intermédiaire de cette parabole. Mais une chose est sûre, quand on regarde là-dedans, on voit que celui qui est l'homme qui est de haute naissance, c'est vraiment Jésus-Christ qui est envoyé sur terre pour accomplir une mission. Et je crois comprendre que cette mission qu'il donne, il donne cette mission qui est d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Il la donne cette mission-là à chacun de ses serviteurs. Regardez comment il parle de serviteurs et de concitoyens. Pour moi, il voit dans l'ensemble de ses concitoyens, il va choisir certains serviteurs. Et à ces serviteurs-là, il va confier le message de la bonne nouvelle. Et c'est ce que Jésus-Christ veut faire, parce que comment est-ce qu'on rentre dans le royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on peut faire grandir le royaume de Dieu? C'est en cherchant d'autres personnes qui pourront rentrer dans le royaume de Dieu. Et ça se fait par l'évangélisation. Ça se fait par la proclamation de la bonne nouvelle. Et c'est ce que Jésus-Christ, nous croyons, veut enseigner à ses disciples et à la foule. Que pour un temps, il va partir et ce sera bientôt. Bientôt, le roi, même que vous fassiez, que vous l'aimiez ou pas, il sera couronné roi. De façon matérielle, oui, parce que dans les prochaines semaines, nous allons voir dans le verset 38, la foule elle-même va dire, béni soit celui qui vient, le roi qui vient au nom du Seigneur. Quand Jésus-Christ fait son entrée triomphale à Jérusalem, même ceux-là qui ne voulaient pas l'acclamer comme moi vont devoir l'acclamer comme moi. Mais plus tard aussi, nous comprenons que Jésus-Christ, après sa mort, il va monter au ciel. Comme il l'avait dit si nous avons suivi le texte dans Jean Actes chapitre 1er, Jésus-Christ va dire que c'est pas à vous de connaître le temps que mon Père a fixé pour son royaume. Mais vous allez recevoir une puissance. Alors pour nous, c'est comme l'évangile, la puissance de l'évangile qui va arriver, cette puissance-là qui est le Saint-Esprit qui va arriver sur les disciples dans quelques semaines, on dirait, parce que c'était à la Pentecôte, plus tard, qui va faire que le message de Pierre va transformer la vie de 5000 personnes qui vont se convertir au Seigneur. Ça déjà commence, le royaume de Dieu commence avec ça. Il faut comprendre que le royaume de Dieu est déjà là, avec Jésus-Christ. C'est un petit peu complexe à saisir, mais la Bible enseigne toutes ces choses-là. Le royaume de Dieu, le fait que Jésus-Christ soit là, il est déjà là. Parce que quand on regarde dans certains textes bibliques, et Jésus-Christ a fait un miracle, je pense, dans Luc, Jésus-Christ a fait un miracle, il a chassé un démon. Puis les gens ont dit, c'est par l'esprit de Belzébul que tu chasses ce démon-là. Et Jésus-Christ leur répond, est-ce que Satan est divisé? Comment est-ce qu'un Satan pourrait chasser un Satan? Non. Alors, plus tard, il va dire, mais c'est parce que le royaume de Dieu est déjà là. Il est là pour chasser le royaume de l'enfer. Dieu est déjà là. Le royaume de Dieu, par la présence de Jésus-Christ, est déjà là. L'Église, avec le don du Saint-Esprit, avec le commencement de l'Église, va témoigner, va manifester aussi la présence du royaume de Dieu. Mais aussi, il y a une portée à venir. Et c'est cette portée à venir, je pense, que Jésus-Christ veut signaler ici, avec ce serviteur qui va partir et qui va donner des mines à ses serviteurs, à ses serviteurs. En fait, le roi qui va partir et donner des mines à ses serviteurs. Et nous avons signalé, nous disant que ces serviteurs sont des hommes qui ont été choisis. Ils n'ont pas eu le mérite, un mérite quelconque. Le maître a choisi 10 serviteurs qui avaient pour lui les mêmes potentiels. Il leur a donné à chacun une seule mine et leur a donné la responsabilité de faire fructifier cette mine. Nous voyons certains qui ont pu faire fructifier cette mine-là. Et nous croyons que ce sont des personnes, des serviteurs qui ont été obéissants. Obéissants dans le sens qu'ils ont reçu la parole, ils ont été l'annoncer à d'autres. Parce qu'ils veulent faire avancer le royaume de Dieu. Et l'avancement du royaume de Dieu se passe par la conversion d'autres personnes. Que quelqu'un qui a déjà fait partie du royaume puisse aller et annoncer la bonne nouvelle à ceux-là qui ne connaissent pas. Et c'est ça la mission de Jésus-Christ, pour avancer, pour bâtir, pour rétablir ce royaume sur terre. Un royaume présent avec sa présence, un royaume à venir, en court terme, avec bientôt le don du Saint-Esprit qui commence l'Église, et aussi un royaume à venir que nous attendons patiemment en tant que serviteurs, en tant que chrétiens. Que Jésus-Christ revienne bientôt et c'est là qu'il va donner sa récompense. Et nous disons que cette récompense-là, c'est une récompense qui va dépasser nos attentes. Dépasser nos attentes, parce que si on fait la comparaison entre ce qui est donné à celui qui avait une mine, il a fait fructifier sa mine, et le roi lui donne la responsabilité de 10 villes. Imaginez ça, un placement de 1000%. Qui n'aurait pas aimé ça, n'est-ce pas? Quelqu'un qui met une mine à la banque, et puis qui en retire 10 mines. Et nous aurions tous aimé ça. Mais nous restons dans un contexte d'une parabole où Jésus-Christ veut enseigner quelque chose. Et nous croyons aussi, comme je l'avais dit, que cette mine-là, c'est cette précieuse parole que nous avons entre nous. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui peut transformer. Parce que si nous regardons la réponse de Jésus-Christ qui dit que si tu avais mis cette mine-là, cet argent-là, à la banque, mais tu n'aurais pas d'effort à faire. Tu n'aurais pas eu d'effort à faire. De son propre chef, de sa valeur intrinsèque, cette mine-là aurait gagné de l'argent. Et si je comprends bien, dans ce contexte-là, l'Évangile est cette puissance-là qui elle-même va changer les cœurs. On n'a pas besoin de faire grand-chose que d'annoncer l'Évangile, annoncer le royaume de Dieu. Et cette parole-là, avec sa puissance intrinsèque, va gagner les cœurs. Et c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous, j'imagine. Si nous sommes là aujourd'hui, quelqu'un nous a parlé, nous a annoncé l'Évangile. Et lorsque nous avons reçu cette parole-là, cette parole-là a fait tout le reste, nous a transformés. Et si nous avons été transformés en tant que serviteurs, pourquoi ne pas aller l'annoncer à d'autres, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu est là. Et c'est ce que je pense que c'est l'enseignement que Jésus-Christ veut faire ce matin. Que nous puissions aller à faire avancer son royaume. Et la façon de le faire, c'est d'être premièrement être obéissant. D'être premièrement, avant d'être obéissant, je dirais même d'être un serviteur. Dieu t'a choisi, t'a choisi pour être un serviteur. Il t'a confié ce message-là, cette bonne nouvelle que tu as dans les mains, qui t'a transformé, qui t'a fait du bien, qui te donne cette espérance de faire partie du royaume à venir et d'être déjà dans le royaume de Dieu et de jouir de tous les bienfaits de ce royaume. Et Dieu nous demande d'aller l'annoncer parce que son but, c'est que son royaume se répande et que toute la terre connaissent l'Évangile et que tout le monde soit sauvé. C'est le but de Jésus-Christ. Et comme il l'a dit à Zachée, hein, ta foi t'a sauvé, oui, mais il dit que la maison, il dit dans le verset, le fils d'Aram, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le but de Jésus-Christ de venir sur cette terre, c'était pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et il a besoin de toi et de moi pour faire avancer son royaume. Et il nous donne cette capacité-là. Il croit dans cette capacité naturelle que nous avons. Il nous donne, il nous choisit. Mais cette capacité naturelle peut nous faire défaut. Pour toutes sortes de raisons. Peut-être que vous avez un langage assez exercé pour une façon très particulière d'approcher les gens pour annoncer l'évangile. Et peut-être que les gens vous écoutent et qu'ils sont venus au Seigneur pour avancer, pour faire partie du royaume. Mais vous savez que tout ce don-là que vous avez, ça vient de Dieu. Tout ce don-là, si vous avez la capacité d'annoncer l'évangile et que les gens, par l'intermédiaire du ministère que Dieu t'a confié, de venir au Seigneur, de toucher des cœurs pour le Seigneur, tu n'as pas fait grand-chose. Tu n'as vraiment pas fait grand-chose. C'est Dieu qui t'a donné cette capacité de le faire. Et je vois ça comme le potentiel qu'il y a dans cette parole de l'évangile qui est annoncée et qui ne revient pas au Seigneur sans avoir fait son effet. Pour celui qui a eu une mine, on pourrait dire que le jugement était incroyable, le jugement était même pas correct. C'était injuste de dire le gars avait une mine, et puis le fait qu'il ne l'a pas fait fructifier, on lui enlève sa mine, on le donne à celui qui en a déjà 10. Aux yeux humains, c'est pas correct, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on aurait jugé. Mais je pense que l'enseignement, c'est pas pour juger. L'enseignement que Jésus-Christ fait là, c'est une réalité. Et Jésus-Christ va nous dire, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Et ça, il répète ça tout le temps dans toute situation. On lit dans Matthieu et d'autres évangiles, Jésus-Christ va dire exactement qu'il faut que vous soyez fidèles. Il faut que vous soyez fidèles. Et nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17, verset 5, verset 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il faut que nous comparions tous devant le tribunal de Christ afin de rendre compte selon le bien ou le mal qu'on aura fait. Le message de rendre compte, l'enseignement de rendre compte, ce n'est pas nouveau dans l'enseignement, dans la Bible. La Bible nous parle d'un instant où on aura à se présenter devant Dieu pour rendre compte de ce qu'il nous a donné. Et en rendant compte, le texte nous dit de recevoir du bien ou du mal. Le fait que le serviteur a été dépossédé de sa mine, ce n'est pas une chose pas correcte, injuste en soi. Et nous l'avons vu dans le chapitre 17. Et Jésus-Christ s'adressait à ses disciples. Et il leur donnait l'exemple d'un serviteur, de quelqu'un qui avait un serviteur. Et à ce serviteur-là, il avait demandé, va me chercher de l'eau, va me préparer de la nourriture. Et puis, à la fin, il dit, est-ce que je dois lui dois une reconnaissance à ce serviteur-là parce qu'il a fait ce que je lui ai demandé? Dans notre perception humaine, quand il n'y a pas de récompense, on enlève des récompenses, on voit que c'est des choses qui ne sont pas correctes. Mais est-ce que Dieu est obligé de nous donner une récompense? Mais non. Il n'est pas obligé de nous donner une récompense. Et comme il dit dans le verset 18, de même vous aussi, vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été donné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce qui nous a été demandé. Même quand nous annonçons la parole et que les gens se convertissent, Dieu ne veut pas que nous soyons orgueilleux de cela. Il veut que nous voyons que c'est lui qui a fait le travail pour nous. De toute façon, la Bible est claire par rapport au témoignage de l'Évangile. Vous faites que semer. Qu'est-ce qui arrose? Peut-être quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui fait germer? Finalement, c'est Dieu qui fait germer. Et s'il y a une récompense, on le reçoit parce que Dieu est bon envers nous. Mais on n'est pas obligé d'avoir une récompense. On a fait seulement ce que Dieu nous a demandé. Et ça, c'est une mise en garde contre ceux-là qui auraient pensé que c'est une injustice, le fait que Dieu a donné une mine à ce monsieur-là, à ce serviteur-là, et qui lui a enlevé cette mine-là. Il faut dire aussi que même dans le don d'une mine, il y a cette portée de grâce. Il y a on voit la grâce là-dedans. Parce que celui-ci, il avait l'opportunité, il y a un temps qui est alloué pour faire fructifier cette mine-là. Et Jésus-Christ, quand il va partir, il va demander à ses disciples d'aller évangéliser, d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est à moi, c'est à toi qu'il donne ce mandat-là. Et pour faire des disciples, ça prend Jésus-Christ. On ne peut pas faire des disciples sans la présence, sans Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est clair par rapport à cela. Et personne ne va venir à moi si le Père ne l'attire. Un travail qu'on va faire, oui, mais le reste ne dépend pas de nous. Fait que même en nous donnant, dans cet exemple-là, quand le serviteur qui a reçu une mine, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Une mine, c'est le même potentiel qu'il avait parmi les autres. Mais il a été paresseux, disons. Il a été paresseux. Il n'a pas fait fructifier. S'il avait peut-être mis sa confiance, nous disons peut-être c'est parce qu'il ne connaissait pas vraiment le maître. Et sa réaction, ses réponses par rapport à la question du maître nous fait comprendre vraiment qu'il n'avait pas compris le maître. Est-ce que nous voyons dans ce maître-là quelqu'un vraiment qui sème là où il n'a pas qui ramasse là où il n'a pas semé, ou bien quelqu'un qui est sévère? Je ne pense pas qu'il y a une image comme ça du maître. Mais lui, c'est comme ça qu'il a compris. Et c'est peut-être le cas de plusieurs d'entre nous, ou peut-être moi aussi, c'est le message, c'est pour moi. Quand on hésite d'aller partager l'évangile, est-ce que c'est peut-être que je n'ai pas compris l'évangile? Ça peut être un obstacle parce que je ne le comprends pas moi-même, ou bien je ne l'ai pas accepté moi-même. Ou bien je ne comprends pas la grâce qui m'est offerte d'avoir l'évangile. Et si je comprends pas cette grâce-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux demander au Seigneur. Et je pense que le message est là aussi pour ce monsieur-là, ce serviteur-là qui avait juste une mine. Et déposer cette mine-là à la banque, pour moi, dire que tu aurais pu demander au Seigneur, prier, que de faire fructifier cela. Parce que la mine en elle-même, elle a ce pouvoir-là. Si on dépose l'argent à la banque, parce que l'argent a une valeur, ben, l'argent va fructifier automatiquement. Mais si on met une paire de chaussures à la banque, qu'est-ce que ça va rapporter? Pas grand-chose. Il n'y a pas de valeur là-dedans. Mais quand Dieu prend la peine de donner ce message-là, cette mine-là, il sait la valeur de cette mine-là. Et peut-être, si nous hésitons à partager l'évangile, c'est peut-être qu'on n'a peut-être pas saisi vraiment la valeur de ce qu'on a dans les mains. Et je pense que c'est un enseignement pour nous. Nous ne voyons pas qu'on dit que c'est un enseignement pour les gens qui écoutaient Jésus-Christ, mais l'enseignement de la Bible, ce n'est pas pour seulement les gens de l'époque, mais c'est pour les gens à venir aussi. Que pour moi, c'est un encouragement de savoir que même si je n'ai pas cette facilité, je n'ai pas eu le courage d'annoncer l'évangile, de partager cette pierre précieuse-là, ce talent-là, cette mine précieuse que j'ai avec moi, c'est pas fini. J'ai encore du temps. Je peux me ressaisir. Je peux me ressaisir en allant auprès du Père, en allant auprès du Maître. Parce que c'est lui qui fait fructifier en soi. La mine ne peut pas faire grand-chose. C'est lui qui fait fructifier. Et Jésus-Christ est clair par rapport à cela. Il nous dit qu'il va avoir un jugement et ceux-là qui n'auront pas rapporté les fruits ne seront pas des vrais serviteurs. Ils seront condamnés, ils n'auront pas la récompense souhaitée. Mais ceux-là qui ont été obéissants, ceux-là qui ont juste fait confiance au Seigneur, le Seigneur m'a sauvé, il m'a dit d'aller partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Si je peux seulement être obéissant à le faire, lui va s'arranger pour que le message se propage, que la mine soit fructifiée. Et c'est un encouragement pour chacun de nous. Sachant que ce maître-là, ce n'est pas un maître qui ne nous connaît pas. Il connaît ses serviteurs. Il connaît nos faiblesses. Et nous avons chanté dans « Il vit ». Je trouvais les termes merveilleux, comme dans nos faiblesses. Celui qui vit va intervenir pour nous aider à accomplir. Le maître, il connaît nos faiblesses, mais il nous confie cette mission-là. Quand Jésus-Christ va dire à ses disciples « Allez faire de toutes les nations les disciples », il savait qui étaient ses disciples. Et il nous présente les faiblesses de tous ses disciples-là. Mais ça n'empêche pas que l'évangile soit propagé et que 5000 personnes et que 3000 personnes et qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui se convertissent parce que Dieu a utilisé cet homme-là, ces hommes-là, pour répandre sa parole. Et c'est ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, que tout le monde soit sauvé, que son royaume s'agrandisse et que le royaume des ténèbres disparaisse. C'est son plan. C'est sa mission quand il est venu sur la terre. Et cet enseignement qu'il donne, C'est pour nous aujourd'hui aussi qu'on puisse être obéissant et être prêt à partager cette mine-là, cette mine d'or qu'il nous donne avec les autres parce qu'on veut gagner d'autres personnes pour le royaume. Et si on hésite, posons-nous la question. Pourquoi est-ce qu'on hésite? Est-ce qu'on connaît le Seigneur? Est-ce qu'on connaît le Maître bien comme il faut? Est-ce qu'on avait saisi? Et si encore là on a des doutes, vous savez, c'est un Père qui est miséricordieux et compatissant. On peut aller le voir, on peut aller et lui présenter, lui demander pardon. Et lui aussi il va nous donner la force pour pouvoir accomplir sa volonté. Inclinez-vous, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous sommes touchés par cet enseignement. Moi, je suis touché de voir comment tu veux utiliser tes serviteurs. Ceux-là que tu as choisis, tu leur donnes un mandat de faire avancer ton royaume. Mais finalement, c'est toi qui vas faire avancer le royaume, Seigneur, et tu es tout puissant. Et ceux-là qui n'ont pas voulu te couronner roi, malgré eux, ils t'ont couronné roi. Ceux-là qui ne voulaient pas de toi, Seigneur, ils étaient convaincus par la suite que c'est toi qui étais vraiment le Fils de Dieu. Même un païen avait confessé que celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Tu es en œuvre ce matin et je te prie que tu puisses travailler dans nos cœurs. Merci pour ceux-là qui s'investissent déjà dans le partage de la bonne nouvelle, Seigneur. Et merci parce que tu fais grandir ton œuvre, Seigneur, par l'intermédiaire de ces personnes. Et s'il y en a comme moi, Seigneur, qui hésitent, qui ont des hésitations, merci pour ta patience. Et le temps est encore là, Seigneur. Tu nous donnes cet avertissement que nous devons faire un travail pour toi. Nous devons nous investir, que nous ne soyons pas paresseux. Mais tu ne nous laisses pas seuls, Seigneur. Tu es avec nous, le Maître. Il est roi des rois, il a la puissance, il a le pouvoir sur tout l'univers, et l'œuvre c'est à lui, et nous pouvons venir vers toi, Seigneur, pour chercher la force nécessaire pour accomplir ce que tu nous demandes. Et merci, Seigneur, parce que tu es disponible pour nous aider à accomplir cette tâche. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, que nous attendons impatiemment, nous avons prié. Amen.